Vous écoutez, on lit pour vous.
La grande frousse de l'an 2000. Un texte de Dave Noël, paru le 31 décembre 2024 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000. Le Devoir replonge en décembre dans un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, la crainte d'un dérèglement informatique qui a éclipsé les espoirs suscités par le nouveau millénaire. Nous sommes le 30 septembre 1998 dans le bunker de la Grande Allée à Québec. Le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, est perplexe. Il ne comprend pas pourquoi ceux qui devaient prévoir le passage à l'an 2000 ne l'ont pas fait. À 458 jours du nouveau millénaire, le temps presse. À l'instar des autres chefs de gouvernement de la planète, Lucien Bouchard redoute le bug informatique qui sera provoqué par la remise à zéro des compteurs à deux chiffres servant à désigner les années. Cette faille du système pourrait, dit-on, dérégler les magnétoscopes, stopper les trains, empêcher les avions d'atterrir et paralyser l'administration publique. Les plus alarmistes évoquent même une catastrophe nucléaire. Le Réseau québécois de la santé serait particulièrement exposé, lit-on dans les procès-verbaux du Conseil des ministres du gouvernement Bouchard, rendu public après un délai de 25 ans. Certains appareils biomédicaux ne passeront pas le millénaire si rien n'est fait, prévient le président du Conseil du Trésor, Jacques Léonard. Le battage médiatique entourant le bug a provoqué une psychose au sein de la population, qui redoute notamment des chutes d'ascenseurs. La situation sera catastrophique si les gens apprennent que les travaux pour le passage à l'an 2000 ne sont pas très avancés, observe Lucien Bouchard en fixant ses ministres réunis dans la salle du conseil exécutif du bunker qui ressemble à une soucoupe volante avec son plafonnier digne d'un vaisseau de Star Trek. Le dérèglement informatique appréhendé éclipse les espoirs suscités par le nouveau millénaire, lequel est mis en avant par le gouvernement péquiste en vue du troisième référendum sur l'indépendance. Politiquement, le peuple du Québec doit décider si l'an 2000 sera le consentement à un abandon graduel de sa capacité de gérer ses affaires, prévient le premier ministre Bouchard lors d'un discours dramatique tenu au Salon Bleu, à moins d'un an du jour J. La peur du bug. Le professeur Benoît Baudry, du département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, avait dans la mi-vingtaine au tournant du millénaire. « Je n'étais pas inquiet du tout », confie-t-il dans un entretien avec Le Devoir. « À l'époque, j'étais déjà convaincu d'une résilience intrinsèque des grands systèmes complexes et connectés. » Le spécialiste rappelle que le bug attendu au 12e coup de minuit ne découlait pas d'un manque de prévoyance des programmeurs, mais d'une contrainte des systèmes de logiciels mis en place dans les années 1960. L'année des dates était représentée avec deux chiffres seulement au lieu de quatre, à cause des limitations sur la taille de la mémoire, explique M. Baudry. Les risques de déraillement informatique étaient bien réels. La grande crainte était d'avoir des divisions par zéro, qui sont des opérations impossibles et qui auraient fait planter brutalement les machines. On redoutait l'effet domino sur le réseau d'ordinateurs des années 1990, qui était beaucoup plus connecté que dans les années 1960. L'anxiété est palpable à l'approche du millénaire. En témoigne notamment un reportage du mensuel américain Wired, qui rapporte des cas documentés d'informaticiens ayant fait des réserves de nourriture et de bougies pour survivre aux bugs en cascade dans des abris de fortune, comme au bon vieux temps de la guerre froide. Le Canada serait le pays le mieux préparé du monde pour affronter la tempête informatique, répète-t-on d'un océan à l'autre, pour se rassurer. Selon la presse canadienne, les gouvernements et les entreprises du pays auraient dépensé plus de 1 000 milliards de dollars pour se protéger du bug, soit l'équivalent de 1 700 milliards d'aujourd'hui. La part du Québec se chiffrerait à 600 millions de dollars en incluant les coûts pour le remplacement d'équipements en fin de vie, dans le domaine de la santé notamment. « Nous avons pris les devants, et c'est très bien », observe le professeur Benoît Baudry, qui préfère ne pas se prononcer sur les sommes gargantuesques engouffrées de façon préventive à l'époque. Un pétard mouillé? Le changement de millénaire s'est déroulé sans encombre, comme l'illustrent les reportages télévisés du 1er janvier 2000 qui ont présenté leur carrousel habituel de feux d'artifice de Sydney à New York. En l'absence du traditionnel bye-bye de fin d'année, les Québécois se sont rabattus sur un épisode spécial de La Petite Vie ayant pour thème le bug de l'an 2000 et sur celui de La Fin du Monde et le 31 décembre animé par Marc Labrèche. Les téléspectateurs ont ensuite migré vers la retransmission d'un spectacle de Céline Dion présenté en direct du Centre Bell. Le seul couac rapporté dans les journaux du lendemain de millénaire est celui de cet homme de l'État de New York qui aurait, dit-on, reçu une pénalité de 90 000 $ de son club vidéo pour un retard d'une journée transformé en un retard d'un siècle. Épargné par le bug tant attendu. Les systèmes informatiques ont toutefois été mis à l'épreuve au début de l'année 2000 qui, comme si ce n'était pas assez, était bissextile. Plusieurs ordinateurs n'ont pas reconnu ce 29 février incongru et sont passés directement au 1er mars. Ce saut d'une journée n'a pas eu de conséquences graves, outre un retard dans l'envoi des factures de l'impôt foncier de la ville de Montréal. Le prochain bug informatique est prévu pour le 19 janvier 2038 à 3h14min07. Il touchera le système Unix, sur lequel le temps est représenté par le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. C'est le même type de problème qu'en l'an 2000, explique le professeur Benoît Baudry. Une des solutions consisterait à représenter les dates sur 64 bits au lieu de 32 pour donner une marge confortable de plusieurs millénaires. C'était « La grande frousse de l'an 2000 », un texte de Dave Noël paru le 31 décembre 2024 dans Le Devoir.
Parlez-vous le Macron ? Un texte d'Isabelle Haché, paru le 4 janvier 2025 dans la presse. Saxifrage est son mot préféré. C'est une plante qui pousse dans les fissures des rochers. Et franchement, ça décrit bien le florissant lexique d'Emmanuel Macron au milieu des discours gris comme les pierres auxquels sont abonnés trop de politiciens. Le président de la République française manie le verbe avec grâce, prenant plaisir à utiliser des mots rares et des expressions désuètes au risque de devenir indéchiffrables, et pas seulement pour les Québécois. Même les Français y perdent leur latin. Dans l'Hexagone, le langage châtié d'Emmanuel Macron a fait l'objet de maints reportages et analyses. On s'est demandé si son épouse Brigitte, longtemps professeure de français et de latin, n'y était pas pour quelque chose. Un magazine a organisé un quiz sur ses expressions sorties des boulamites. Sur TikTok, des internautes utilisent ses discours pour faire découvrir de nouveaux mots à leurs abonnés. Mais l'élégance du verbe du président de 46 ans ne plaît pas à tout le monde. Certains lui reprochent son élitisme. Pour un politicien, le danger n'est-il pas de donner aux gens l'impression qu'ils sont incultes? Ça ne semble pas ébranler Emmanuel Macron, qui défend la richesse de sa langue face à la réduction du vocabulaire des populistes. Je me suis plongée dans les mots de Macron, armée d'un bon dictionnaire pour que vous n'ayez pas à sortir le vôtre. Florilège. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Entrevue télévisée, avril 2018. Carabistouille, nom féminin, baliverne, mensonge, bêtise. Surtout employé en Belgique. L'Europe est une copropriété. On ne peut pas décider seul de ripolliner la façade. Débat de l'entre-deux-tours, 2022. Ripolliner, verbe. Peindre au ripolin, une marque de peinture laquée autrefois utilisée en France. Au sens figuré, donner un air neuf, rafraîchir. Vous avez raison de me rappeler que j'ai passé l'hémistiche et que je suis sur une pente descendante de mon quinquennat. Interview du 14 juillet 2020. Hémistiche, nom masculin, moitié d'un verre, marqué par une césure. Les critiques, même si in petto je peux considérer qu'elles sont injustes, font partie du jeu démocratique. Interview du 14 juillet 2020. In petto. Locution adverbiale, de l'italien, dans la poitrine, dans son fort intérieur, en secret. Je refuse une forme d'irénisme coupable. Discours à Strasbourg, avril 2018. Irénisme, nom masculin, recherche du consensus à tout prix, naïveté, angélisme. Ce qui constitue l'esprit français, c'est une aspiration constante à l'universel, cette ipséité stricte. France Culture, mars 2017. Ipséité, nom féminin, identité propre, ce qui fait qu'une personne est unique et se distingue de tout autre. En suradministrant, en essayant de résoudre tous les problèmes par la dépense publique, nous avons étouffé l'économie et la société en faisant croire que l'État était totipotent. Discours au préfet, septembre 2017. Totipotent. Adjectif. En biologie, se dit des cellules embryonnaires capables de se diviser pour générer tous les types cellulaires d'un organisme. Du latin totus et potens. Tout-puissant, qui a toutes les potentialités. Marseille, c'est une ville-monde qui est le palimpseste de migration et d'une France accueillante avec tous les défis que cela suppose. Discours à Marseille, septembre 2021. Palimpseste, nom masculin, parchemin dont la première écriture a été effacée pour écrire un nouveau texte. L'État peut systématiquement arriver en proposant des milliards, si toujours l'action publique est divisée et les chicayas locales bloquent l'avancée. Ces milliards n'arrivent jamais. Discours à Marseille, septembre 2021. Chicaya, nom féminin, de l'arabe, plainte, lamentation. En français, le sens a glissé pour signifier une querelle interne, une chicane de clocher. Continuez votre ancienne, Madame Le Pen. Débat télévisé avec Marine Le Pen, mai 2017. Ancienne, nom féminin, refrain liturgique repris par le cœur entre chaque verset d'un psaume, au figuré, rengaine, répétition continuelle. Là, c'est vraiment un galimatia. Débat télévisé avec Marine Le Pen, mai 2017. Galimatia, nom masculin, discours confus, inintelligible. C'est une maïeutique qui est vraiment venue du terrain au micro d'une balado juin 2024. Maïeutique, nom féminin, de Maïa, déesse grecque de l'accouchement. En philosophie, une technique développée par Socrate, qui vise à faire accoucher les esprits de leurs connaissances. une forme d'anomie qui est le vecteur de toutes les régressions, complotisme, paranoïa, nivellement des savoirs. Discours à Boston, novembre 2024. Anomie, non féminin, désintégration des normes sociales régulatrices, des valeurs communes à un groupe. La place que la France occupe dans le concert des nations est presque aujourd'hui un miracle, une rémanence, une persistance rétinienne. Discours à New York, septembre 2017. Rémanence, non féminin, persistance d'un État après la disparition de sa cause. Partout, j'ai vu les drapeaux bretons côtoyer les drapeaux français. Et je ne ferai pas l'erreur d'y voir le signe d'un irrédentisme souterrain. Non. Mais le signe de fierté qui s'additionne. Déclaration en Bretagne, juin 2018. Irrédentisme, nom masculin, de l'italien irredento, nom libéré. Mouvement nationaliste réclamant que des territoires soient intégrés à un autre État. C'est un refus de céder à l'oukase de simplification dans un monde de plus en plus complexe. Discours au Maroc, septembre 2024. Oukase, nom masculin. Dans l'Empire russe, proclamation du tsar. Au sens figuré, c'est une décision arbitraire ou une prise de position péremptoire. Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons, interview télévisée, octobre 2017, croquignolesque, adjectif de croquignole, petit biscuit très dur et croquant, risible, ridicule. On peut avoir des désaccords, mais ils ne doivent pas être rédhibitoires. Intervention télévisée, octobre 2017. Rédhibitoire, adjectif qui constitue un empêchement absolu. Je pourrais faire une liste par prétérition. Débat de l'entre-deux-tours, avril 2022. Prétérition, nom féminin, du latin praetericio. Omission, figure de style qui consiste à dire qu'on ne parlera pas d'une chose dont on parle quand même. C'était « Parlez-vous le Macron ?» un texte d'Isabelle Haché, paru le 4 janvier 2025 dans la presse.
Michel Hazanavicius et son précieux projet. Un texte de François Lévesque paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. En Pologne, alors que la Deuxième Guerre mondiale fait rage, un couple de paysans tente de subsister dans sa cabane construite au fond des bois. Chaque matin, la femme se rend jusqu'au chemin de fer voisin dans l'espoir que, d'un train transportant à son insu des Juifs à destination d'Auschwitz, tombera quelques denrées. Un jour, elle se croit exaucée lorsqu'un paquet choit dans la neige. Sauf qu'il ne s'agit pas de nourriture, mais d'un poupon que son père a ainsi tenté de sauver d'une mort certaine. Malgré l'opposition de son mari, la femme décide de cacher le bébé aux autorités. Tiré du livre de Jean-Claude Grunberg, « La plus précieuse des marchandises », dévoilé en compétition officielle à Cannes, marque les débuts en animation du réalisateur de « The Artist », l'artiste Michel Hazanavicius. C'est l'éditeur qui m'a envoyé les épreuves avant publication, explique le cinéaste joint à Paris par visioconférence. Je connais l'esprit de Grunberg, je connais son travail, mais j'ai été bouleversé. J'ai trouvé que c'était un livre magnifique. C'était selon moi un petit miracle que Grunberg ait réussi à s'adresser aux enfants sans leur mentir, à leur raconter une histoire qui est à la fois terrible et en même temps profondément lumineuse et solaire. C'est une histoire qui vous montre tout le bien dont l'humain est capable, même dans les pires situations. j'ai aussitôt pensé qu'il y avait une traduction cinématographique à en tirer. Il faut préciser qu'avant la lecture, Michel Hazanavicius n'était pas gagné au sujet. En effet, le réalisateur n'a jamais désiré, et ce, de manière très consciente, faire de films traitant de ce sujet précis. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les récits sur la Shoah. J'entends les fictions et le cinéma, confirme Michel Hazanavicius. J'ai toujours l'impression que le trajet émotionnel est un peu tracé à l'avance. Je sais ce que je vais ressentir et je sais pourquoi je vais le ressentir. J'ai l'impression de ne pas être libre de mes émotions. Mais justement, Grünberg, avec le dispositif du conte, élève cette histoire à un niveau qui nous concerne tous, qui concerne l'humanité. Racontée comme ça, cette histoire n'est plus une histoire qui appartient aux Juifs ou qui appartient aux nazis ou aux Européens. C'est une histoire qui s'adresse à tout le monde et qui accueille tout le monde. C'est une histoire qui montre la pire des abjections et, en même temps, la plus belle des facettes de l'humanité. Et tout ça avec beaucoup de délicatesse. Après une pause, Michel Hazanavicius reprend, un peu comme s'il venait de prendre conscience de ce qu'il s'apprête à dire. Il y a aussi autre chose, je pense. Cette histoire, ce n'est pas vraiment mon histoire. Moi, je suis né en 1967, mais c'est l'histoire de ma famille, donc elle est inscrite en moi. Et étant juif, je fais partie de ce peuple et de cette histoire très importante. Pour autant, comme je vous dis, ce n'est pas mon histoire personnelle. Pendant longtemps, c'était le temps du témoignage, de la parole et des survivants. Maintenant, il n'y a plus guère de survivants et le temps de la fiction s'ouvre, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai accepté cette adaptation. Considération morale et éthique. Paradoxalement, la plus précieuse des marchandises devint vite le projet le plus personnel de Michel Hazanavicius. De fait, bien qu'il n'ait auparavant jamais fait de film d'animation, le réalisateur des deux premiers OSS 117 et de Coupé vient des Beaux-Arts. Le dessin a toujours fait partie de sa vie, mais c'était jusqu'ici quelque chose qu'il gardait pour lui. Or, pour ce film-ci, avant l'entrée en scène de quelques collaborateurs que ce soit, Michel Hazanavicius plancha seul dès 2019 à sa table à dessin. Il n'y avait que lui, son crayon et son imagination, une bulle créatrice inédite pour lui. Si, en amont du découpage technique, le cinéaste tourna deux semaines en studio avec de vrais acteurs et décors afin d'élaborer les compositions et de capter les mouvements, il reste qu'à terme, maintes de ses esquisses et croquis se retrouvent dans le film. Vous écoutez Michel Hazanavicius et son précieux projet, un texte de François Lévesque paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. Il y a un moment où on voit des images arrêtées, dessinées au fusain. Ces dessins sont de moi, tels quels. L'ensemble est assez proche de mes dessins initiaux. En fait, les personnages principaux étant ceux qui devaient être dessinés par le plus grand nombre d'animateurs, ce sont ceux qui ont été le plus modifiés. Il a fallu que j'aie une approche plus logotype, avec des traits très reconnaissables, afin que tout le monde puisse les prendre. L'épure des traits est en l'occurrence en phase avec la dimension archétypale des dix protagonistes simplement appelés « pauvre bûcheronne », voix de Dominique Blanc, et « pauvre bûcheron », voix de Grégory Gadebois. Le recours à l'animation entraîna toutefois des questionnements imprévus. De révéler Michel Hazanavicius, je suis devenu obnubilé par le sujet et ses difficultés. Je veux dire, les problèmes de morale et d'éthique que le sujet amène. Par exemple, si vous représentez un camp d'extermination ou que vous représentez un wagon de déportés, il y a une responsabilité qui est différente de celle qui existe si vous faites un film d'espionnage ou je ne sais quoi. Et donc, l'animation, je l'ai plus abordé en me demandant dans quelle mesure cet outil-là me permettrait de trouver la bonne distance. La voix de Trintignant. Pour narrer ce conte, Michel Hazanavicius n'avait qu'un seul acteur en tête, Jean-Louis Trintignant, 1930-2022. Cette voix, le film ne serait pas ce qu'il est sans cette voix. Ça a été une chance inouïe qu'il accepte. C'était évident pour moi, dès l'écriture, que ce narrateur devait être Jean-Louis Trintignant. C'est la plus belle voix du cinéma français, et c'est un immense acteur. C'est comme s'il avait toujours été là. Il est comme une mémoire du cinéma. Je voulais qu'on retrouve ça dans le film, parce que, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression d'un classique qui aurait existé avant même que Jean-Claude ne l'écrive. Et je voulais en retour communiquer cette impression-là d'un film qui serait comme un souvenir qui remonte à la conscience. D'où le classicisme dans le graphisme. Mais bref, Jean-Louis... Soudain, Michel Hazanavicius se tait, à l'évidence plongé dans les réminiscences de sa collaboration avec le légendaire acteur. À titre personnel, c'est une expérience géniale parce que c'est un acte mythique du cinéma d'avoir pu travailler avec lui, d'avoir pu lui parler et faire son ultime film. Dans mon téléphone, j'ai encore toutes les prises qu'on a enregistrées, confie le cinéaste, ému. Évidemment, Jean-Louis Trintignant n'en était pas à sa première narration, loin de là, mais celle de la plus précieuse des marchandises survenait dans un contexte particulier. À ce stade, Jean-Louis était aveugle, donc il ne pouvait pas lire. Il a fallu qu'il apprenne tout le texte à l'oreille. Il m'a demandé de lui enregistrer, ce que j'ai fait. Ensuite, Marianne, sa conjointe, l'a fait répéter. On se parlait régulièrement, on s'appelait, et je lui disais « Jean-Louis, prends ton temps, je ne suis pas pressé, tout va bien. Quand tu es prêt, tu me dis et j'arrive et on t'enregistre. » Un jour, il m'a dit « C'est bon. » On a loué un studio pas très loin de là où il habite, de là où il habitait, dans le sud. C'était un moment privilégié de voir cet homme réciter ce texte écrit pour les enfants. J'en ai des frissons. C'était Michel Hazanavicius et son précieux projet. Un texte de François Lévesque paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir.